France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir sur la politique étrangère et européenne de la France. Encore un aspect de cette campagne invisible que nous scrutons dans le téléphone sonne, sur des sujets donc qui méritent le débat dans une présidentielle, mais ne le suscitent pas ou peu. Chaque candidat a évidemment formulé des propositions, certaines très articulées. Beaucoup, par exemple sur l'Europe, avancent des critiques, parfois très virulentes, mais on peine à voir se dessiner ce que peut et doit être le rôle de la France dans le monde, ce que peut et doit être, derrière les slogans et les phrases qui claquent, la politique européenne et étrangère de la France. Alors, il paraît qu'une élection ne se joue pas là, pas sur ces sujets qui, de toute façon, n'intéressent pas les Français. Ça, c'est le grand cliché de base. Personnellement, moi j'en doute. Téléphone sonne donc jusqu'à 20h. Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue Gaël qui nous appelle de Lyon. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Monsieur Demorand.
Nous vous écoutons.
Oui, très bien. Tout d'abord, merci pour votre émission.
Merci à
moi,
vous.
Je tenais juste à vous faire part de ce témoignage où je partage tout à fait votre point de vue que la dimension européenne est sous-médiatisé dans le cadre de cette campagne, et c'est bien dommageable parce que quelque part ça ne traduit pas la réalité des faits. Il faut bien avoir en tête que une bonne partie de notre corpus légal aujourd'hui est influencée par les instructions qui nous proviennent directement de Bruxelles. Mmh. Et donc faire l'impasse sur cette dimension européenne, c'est quelque part nier une réalité qui aujourd'hui nous entoure très clairement et très nettement.
La politique européenne, Gaëlle, vous intéresse ?
Absolument, elle m'intéresse. Et donc, lorsque je ne trouve pas l'information sur les médias traditionnels, je vais la chercher par moi-même. Internet a au moins ça d'intéressant. Mmh. Mmh. Tout à fait. Oui, absolument, bien sûr qu'elle m'intéresse.
Et est-ce que vous avez cristallisé, comme on dit, votre vote ou pas ? Si la politique européenne vous intéresse, votre cœur balance vers qui ?
Il ne balance plus depuis longtemps. Mon choix a été fait, et il a été fait sur ce principal critère. Et donc, par défaut, et très rapidement, mon choix s'est porté par M. Macron, qui possède un programme clair, net, et qui, à mon sens, va dans le bon sens. Je tiens à souligner que mon choix n'est donc pas un choix par défaut pour faire barrage, soit à tel ou tel candidat, mais bien pour la dimension européenne du programme de M. Macron.
Merci Gaël pour votre intervention, pour dialoguer avec nous ce soir et avec vous, amis auditeurs du téléphone sonne. Bertrand Badie, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Et Yves Bertoncini, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le directeur de l'Institut Jacques Delors, Gaël a voté et se déterminera sur la politique européenne. Ça doit vous faire plaisir, ça, non ?
Oui, parce que c'est important que l'Europe soit dans cette campagne. C'est important aussi parce que quand on élit le président de la République en France, c'est quand même lui, le grand acteur de la politique européenne de la France. Je rappelle que d'ailleurs, il ne rend aucun compte. Hein. Il ne va pas, comme Angela Merkel en Allemagne, rendre des comptes devant le Parlement national. Donc, on lui donne d'une certaine manière, non pas un chèque en blanc, mais une feuille de route. Et il va devoir prendre des décisions en notre nom à Bruxelles. Ce qu'a dit Gaël, c'est que des directives, des décisions sont prises à Bruxelles. Nous les prenons, hein. C'est de la souveraineté partagée. Quand il parle d'Emmanuel Macron, je retrouve effectivement cette idée de souveraineté partagée dans son programme. L'idée que Emmanuel Macron n'est pas évidemment le seul à parler d'Europe. Hein. Mmh. Il y a des europhobes qui en parlent. Il y a beaucoup dans cette campagne des candidats, Marine Le Pen naturellement, mais aussi M. Asselineau, M. Seminat, qui nous disent qu'au fond, tous les maux de la France proviennent de l'Europe et qu'ils il faut même la quitter, c'est pour ça qu'ils sont europhobes, ils la détestent tellement qu'il faut la quitter. Jean-Luc Mélenchon est un europhobe un peu plus tactique, parce que lui, il dit qu'il la quitterait si jamais on ne lui donnait pas satisfaction, mais disons qu'il fait entendre une petite musique assez négative, on ne peut pas dire qu'il n'en parle pas. Il y a sinon, effectivement, plutôt d'autres eurosceptiques, avec différentes nuances d'euroscepticisme. Il y a aussi des propositions constructives, Benoît Hamon en fait notamment, François Fillon également. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron est sans doute celui dont les citoyens pensent qu'il... D'abord, il n'accable pas l'Europe, hein, comme si tous les maux de la France venaient de l'Europe. D'une certaine manière, il n'est pas franco-sceptique. Hein, ça, c'est ce qu'il partage avec Benoît Hamon et François Fillon. C'est-à-dire que tout ne vient pas de Bruxelles. On peut s'en sortir si on prend des bonnes décisions à notre échelle. il faut faire ça. Et l'Europe ne va pas nous en empêcher, on le fait. Et ce n'est pas elle qui nous le dit, on le fait parce qu'il faut le faire. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai qu'ensuite, il articule peut-être plus que les autres, Emmanuel Macron, cette idée de souveraineté partagée, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas un bouc émissaire, mais en plus, elle peut être un instrument, un outil. Et donc, c'est pour ça que Gaël peut être séduit par lui, comme d'autres europhiles en France.
On va y revenir, mais l'europhilie en détail, je veux dire, sur l'Europe et sur d'autres aspects de la politique étrangère. Mais l'europhilie, Bertrand Badie, est minoritaire parmi les 11 candidats.
Ah, très nettement, et pour une raison bien simple, c'est que la France, comme la plupart des pays européens, mais je dirais même la plupart des pays du monde, se trouve dominée par ce vent néo-nationaliste qui fait que le repli sur la nation est présenté comme le socle d'un programme par beaucoup de candidats, et qui fait aussi, et dans un même mouvement, de l'Europe la cause, le bouc émissaire, ce qui est responsable de tout ce qui ne va pas. Mais moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que la question européenne, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, est extrêmement importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle conditionne ce que le président fera en France. C'est-à-dire, c'est fini le plan de parti, un, je ferai ça en France et deux, je ferai ça en Europe. Je veux dire, le lien est tellement intime que, en amont de toutes les offres de programme, il y a trois énigmes européennes dont les candidats, même Macron, parle très peu, parce que la souveraineté partagée, c'est un concept, j'ai mis des années et des années à comprendre ce qu'il voulait dire, et je suis arrivé...
Et vous y êtes parvenu en quelle année alors?
Et je n'y suis pas parvenu, parce que souveraineté partagée, c'est quand même un oxymore, mais le débat ne porte pas là-dessus, le débat y porte sur, je dirais, les trois préalables. Le premier préalable, c'est comment faire quand il y a un décalage entre le choix souverain d'un peuple et la décision prise. Et notamment, ce serait intéressant de savoir ce que ferait un président élu si ce qu'il décide conformément à son programme n'est pas jugé recevable à Bruxelles. Ça, silence radio. Deuxième grand enjeu, deuxième grande question préalable, c'est notre Europe a été un énorme succès dans sa dynamique d'après-guerre pour obtenir la paix, enfin la fin des guerres intestines, et pour reconstruire l'Europe. Maintenant, l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est l'Europe dans la mondialisation, et c'est probablement à passer d'un modèle associatif à un modèle solidariste. Ça, j'entends rien là-dessus. Et puis la troisième question, c'est l'Europe, justement, dans le monde, dans la mondialisation. Alors, mondialisation, la grande erreur, c'est que ce mot a été utilisé pour faire peur et pour décrire des catastrophes. L'important pour tout président, ça va être d'une manière ou d'une autre de positiver la mondialisation. Parce qu'on ne peut pas fermer les volets, il faut se définir par rapport au monde et voir comment l'Europe comme totalité peut se définir par rapport au monde.
Et là-dessus, vous n'entendez pas grand-chose, j'imagine, là, non plus, dans la campagne.
On n'entend pas grand-chose parce
si,
que...
Sinon, fermons les volets.
Voilà. Et ceux qui veulent ouvrir les volets restent quand même très timides sur ces questions. Mmh. En gros, Macron, Fillon, quand même plus au côté, et Hamon, d'un côté, et ceux que
les
vous
autres.
Avez, voilà, de l'autre.
Un mot d'explication ou de définition, souveraineté partagée, Bertrand Badie ne sait toujours pas en 2017 ce que ça veut dire exactement. Yves Bertoncini, vous qui parlez l'européen couramment, vous avez peut-être... je sais pas, les moyens de nous le faire comprendre.
Je vais vous le faire à l'anglais, si je puis dire, en prenant un exemple concret. L'union monétaire. Avant l'euro, nous avions notre souveraineté monétaire, nous Français. Simplement, nous étions totalement dépendants des positions prises par la Bundesbank. Et puis, la souveraineté monétaire nationale, c'était le heurt des souverainetés monétaires, la dévaluation, la guerre des monnaies. Nous avons décidé, nous, le peuple français, hein, parce qu'il y a eu un vote référendaire, de faire l'euro. Aujourd'hui, la souveraineté est partagée. Au sein de la Banque Centrale Européenne, là, les Français ont une voix autant que les Allemands. D'ailleurs, les Allemands sont très souvent en minorité. Ils sont très fâchés de cela. Nous sommes dans une union monétaire. Les décisions sont prises en commun. Et d'ailleurs, ça nous rend un peu plus souverains que si nous étions seuls, parce que dans la tempête financière récente, si jamais le franc, la drachme et le forint avaient été en circulation, les dégâts auraient été sans doute assez colossaux. Donc, ça, c'est un exemple de souveraineté partagée très concret.
Vous avez compris,
et d'ailleurs, je crois que,
vous avez compris,
je crois, j'espère que le professeur Badi voudra bien m'absoudre, mais en tout cas, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de nos compatriotes français, ils sont attachés, et donc d'une certaine manière, aiment la souveraineté partagée, sans doute sans le savoir.
Alors, c'est Bertrand Badi.
L'élève, il a appris son cours. Il a appris que la souveraineté renvoyait à un pouvoir ultime et indissociable.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Alors,
après l'avoir été avec Bertoncini.
Voilà. Alors, je pense que le début de la sagesse, ce serait d'inventer un nouveau mot, un nouveau concept pour montrer justement, et là je pense qu'on peut rejoindre là-dessus, que la problématique classique de la souveraineté est obsolète. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où l'usage du concept de souveraineté tel que forgé du temps de Philippe le Bel sonne faux, d'accord ? Mais essayer de recycler ces vieux concepts pour dire quelque chose de nouveau... voilà, c'est les ambiguïtés qui font forêt.
Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux invités.
Bienvenue dans le téléphone sonne, nous vous écoutons Bernard.
Oui, merci. J'ai pas mal de voisins, d'amis ou de connaissances ou des personnes que je peux rencontrer dans la rue et à qui je parle des élections et qui hésitent ou qui ne savent pas trop choisir entre M. Hamon ou M. Mélenchon. Et j'aimerais que les invités puissent dire en très peu de phrases, si c'est possible, quelle différence il y en a, essentielle il y a entre ces deux candidats sur les questions européennes.
Restez avec nous Bernard, pour le très peu de phrases, je peux rien vous garantir, mais la réponse vous l'aurez. Yves Bertoncini, différence essentielle entre la conception de l'Europe de Benoît Hamon et celle de Jean-Luc Mélenchon.
Je laisserai peut-être à Bertrand Badi les enjeux diplomatiques, la relation avec Vladimir Poutine notamment. Ils se sont affrontés lors d'un débat quand M. Mélenchon a dit qu'il fallait revoir les frontières de l'Europe, ce que Benoît Hamon a trouvé très dangereux. Je crois que Benoît Hamon avait plutôt raison de trouver ça un peu périlleux. Mais prenons un exemple concret sur la zone euro. Bon, ils ont quand même un point commun. Ils disent qu'en fait, le problème en Europe et donc en France, c'est l'austérité. Tout le monde ne pense pas ça, hein, parce que la France qui a accumulé le déficit public depuis tant d'années, ne connaît pas du tout l'austérité que la Grèce a bien connue. Là, oui, en effet, l'Irlande, Chypre et d'autres. Bon. Mais c'est vrai que face à cela, ils ont des approches très différentes, puisque Jean-Luc Mélenchon nous dit que donc, il faut tout changer, et que d'ailleurs, si on ne révolutionne pas tout, y compris par exemple en donnant un nouveau statut à la Banque centrale, en lui donnant de nouveaux objectifs, en la rendant moins indépendante, eh bien à ce moment-là, il claquera la porte. Donc je dirais...
L'Europe, on la change ou on la quitte.
Voilà,
on
la quitte. C'est en cela que c'est une forme d'europhobie un peu tactique, c'est la politique de la chaise vide, d'une certaine manière, ou du moins de la porte ouverte. C'est une, si vous voulez, pour résumer, c'est Syriza, tendance Varoufakis. Alors que Benoît Hamon, qui d'ailleurs a dit que s'il était élu, son premier voyage, il le ferait à Athènes, ça serait plutôt Syriza, tendance Tsipras. C'est-à-dire quelqu'un qui veut engager une réorientation de l'Europe, mais qui n'ouvre pas du tout la porte vers une sortie dont il jugerait que ça serait catastrophique. Et donc, je reviens à mon exemple précédent. Vis-à-vis de la zone euro et de cette union monétaire, ils ont quand même un clivage assez marquant.
Bertrand Badi, et puis on demandera à Bernard s'il a eu sa réponse. Bertrand Badi.
Oui, la difficulté, c'est que nous avons dans notre culture politique française l'habitude de nous définir et de définir les candidats en fonction d'un axe droite-gauche. Il y a ceux de droite, ceux de gauche, puis il y en a qui sont plutôt centre-droite, d'autres centre-gauche. Or, cette nouvelle élection présidentielle, dans sa confusion, présente quand même une nouveauté extraordinairement importante. C'est que, au clivage droite-gauche, s'ajoute un clivage, je dirais, monde-nation, mondialisation ou repli, enfermement, protection, en référence à la nation. Et du coup, nous avons dans la carte de l'offre une sensibilité mondialisante. Qu'est-ce que ça veut dire mondialisante ? C'est-à-dire donner la priorité au rapport entre la France et son environnement régional, l'Europe, ou mondial, l'ensemble du monde. Et là, on retrouve en même temps une sensibilité libérale, qui est Macron, et une sensibilité de gauche, qui est Hamon. Et dans la gauche, on a une sensibilité nationaliste, qui est incarnée par Mélenchon, et une sensibilité d'ouverture qui est incarnée par Hamon. C'est bien qu'on a deux mondialisations, une mondialisation plutôt solidariste avec Hamon, une mondialisation plutôt libérale avec Macron, une option de gauche qui est marquée du sceau de la nation et de la référence nationale avec Mélenchon, et une autre ouverte avec Hamon. Alors ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Au niveau européen, je suis assez d'accord avec la formule que vous avez indiquée. C'est effectivement, du côté de Benoît Hamon, une tentative de redéfinir l'Europe par référence à la solidarité. Je pense que chez Macron et chez Fillon, c'est plutôt l'Europe traditionnelle, l'Europe associative, l'Europe libérale. Là, c'est une Europe solidariste. D'où effectivement cette sensibilité au discours de Syriza et ce qui s'ensuit. Du côté de Mélenchon, c'est un discours quand même où la référence à la nation l'emporte sur la référence à l'Europe. Et ça, c'est effectivement un clivage très fort.
C'est étonnant parce qu'on aurait pu imaginer Jean-Luc Mélenchon internationaliste. Et là, vous le décrivez...
Oui. Il le dit, ça, de temps en temps. Il dit, mais oui, je suis internationaliste parce que je chantais l'international, etc. Parce que... etc. Mais dès qu'on l'interroge sur les questions migratoires, par exemple, en même temps, il y a un discours de gauche généreux, du style, il faut régulariser les sans-papiers, il faut avoir du respect pour ces populations migrantes, etc. Mais en même temps, il nous dit, il faut tarir les flux migratoires, il faut que chacun s'installe chez soi. Le chez-soi devient un élément structurant du discours que l'on ne retrouve pas ni chez Macron ni chez Hamon.
Yves Bertoncini, puis Bernard, juge de paix, nous dira s'il a compris la différence entre Mélenchon et Hamon sur l'Europe.
Et si vous le permettez, on peut aussi, puisque vous parlez d'internationalisme, parler des candidats trotskistes qui se dissocient de Jean-Luc Mélenchon.
Ah, tout à fait.
Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, d'ailleurs, Nathalie Arthaud dit clairement aussi que l'Europe ne doit pas être le bouc émissaire, que c'est le grand capital, l'ennemi, mais ce n'est pas la capitale de l'Europe, Bruxelles, non, c'est le grand capital. Mais elle dit aussi, arrêtons d'être nationalistes. Et elle reproche à Jean-Luc Mélenchon d'être nationaliste. J'ai cité l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, on y regarde des frontières, etc., mais regardez son attitude vis-à-vis de l'Allemagne. Jean-Luc Mélenchon, dans ses livres, c'est bien son droit, hein, mais en tant qu'analyste, on le relève, a quand même une attitude agressivement nationaliste vis-à-vis des Allemands. Ce n'est pas du tout le cas des internationalistes trotskistes traditionnels, si je puis dire. Et ce n'est pas non plus le cas de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron, de François Fillon, même s'il peut y avoir évidemment des rapports de force, mais ça ne va pas aussi loin que la verve de Jean-Luc Mélenchon.
Bernard ?
Oui, écoutez, je vous remercie. Je remercie les deux invités de ces très éclairantes explications. Et je vous remercie, monsieur Demorand, de cette très stimulante émission.
Merci à vous, Bernard.
Je pense que ça a éclairé les auditeurs.
Et bon courage maintenant pour aller voter, hein. Hein, Bernard, vous êtes toujours là ?
Oui.
Bon courage à vous. Hein.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous. Jean-Baptiste, bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
Je vous en prie, vous nous appelez de Rennes, on vous écoute.
Voilà, alors moi je suis jeune, j'ai bénéficié de beaucoup de programmes européens, je suis un europhile convaincu. J'ai fait Erasmus, je me suis baladé en Europe grâce au Pass Interrail, mais enfin voilà, j'aime l'Europe, j'adore l'Europe. Je vote Mélenchon par conviction, et notamment pour son projet européen, parce que c'est l'Europe des personnes qui est mise en avant dans son programme, et l'Europe, l'europhobe qu'il est accusé d'être, l'est plutôt pour des questions économiques que des questions de personnes, des questions d'amour des peuples. Et on voit bien au discours de Marseille qu'il a fait, et dans tous ses meetings, la question européenne et la question internationale est avant tout tournée vers les peuples et moins vers les marchés. Or, ce qu'on reproche aujourd'hui à l'Europe, c'est de faire fi, en fait, du peuple au profit des marchés. Donc je pense que Mélenchon est quelqu'un d'europhile, plus que ce qu'on dit.
Alors, même motif, même punition, Jean-Baptiste, vous restez en ligne et on soumet votre question, votre analyse à nos deux invités. Yves Bertoncini, pour commencer, je suis europhile, je vais voter Jean-Luc Mélenchon.
S'il est europhile, Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment sur le mode du qui aime bien, châtie bien. Et quand on parle de la réalité humaine de l'Europe, ce n'est pas moi qui ai repris Jean-Luc Mélenchon de voler quand il a dit que les travailleurs détachés venaient voler le pain des Français, hein, c'est Olivier Besancenot. Et donc, Olivier Besancenot n'est pas un europhile, hein, mais c'est un internationaliste. lui. Alors, encore une fois, on peut tout à fait voter pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour les 10 autres candidats.
Vous voyez bien ce que dit
Jean-Baptiste.
Mais
sur son europhilie, je serais relativement sceptique. Il a une conception de l'Europe qui est eurosceptique.
Ce que dit Jean-Baptiste, c'est que Jean-Luc Mélenchon critique des options politiques en Europe, des options économiques en Europe, et que ça ne fait pas de lui un europhobe.
Qu'il faille... Alors, je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai essayé de dire que Marine Le Pen, François Asselineau, Jacques Cheminade étaient europhobes. Parce que c'est leur stratégie et que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'euroscepticisme hard, si vous me permettez cette expression, mais qui n'exclut pas une sortie de l'Union européenne. Monsieur Varoufakis était certainement un europhile, il vous le redira, sauf qu'il a mené son pays à un moment à deux doigts de la sortie de l'Union européenne. Alors ensuite, si la Grèce était sortie de l'Union européenne, était retournée à la drachme, il aurait pu vouloir reconstruire une autre Europe, mais je ne sais pas avec qui
mais
il aurait reconstruit.
Quand on reprend ce slogan, l'Europe, on la change ou on la quitte, la première partie, c'est on la change. Alors, est-il possible de la changer?
Il y en a qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes.
Oui, alors.
Alors, Monsieur Varoufakis, désavoué par Alexis Tsipras et puis après par son peuple, hein, parce que le parti qu'il a soutenu a fait 3% aux élections, et puis Monsieur Cameron, on la change ou on la quitte. Il a essayé de la changer. Ensuite, il a dit qu'il ne voulait plus la quitter, et finalement, son pays l'a quitté. Rien n'interdit de quitter l'Union européenne. C'est pas une prison des peuples.
Oui,
l'Union
européenne. Visiblement, rien ne permet de la changer non plus.
Peut-être pas sur l'ère de l'europhile. En revanche, dernier point, vous avez raison, et j'en reviens, pardon professeur, à ce concept de souveraineté partagée. On peut pas construire l'Europe tout seul. C'est d'ailleurs y compris vrai quand il y a des.
Est-ce qu'on peut la changer l'Europe ou est-ce qu'on est obligé de la quitter?
Mais elle a changé récemment. Regardez l'Europe sur la zone euro. Tout ce qui a changé depuis 5 ans, en bien ou en mal. Donc elle peut changer, mais c'est un rapport de force entre les peuples.
Qu'on parle d'un changement vers une Europe sociale, d'une sortie des dogmes économiques, bref, de la possibilité de pouvoir imaginer en Europe des politiques alternatives à « il n'y a pas d'alternative ». Est-ce que ça, c'est possible en Europe?
C'est possible en fonction des majorités politiques qui se dégagent. Non pas seulement en France, avec tout le respect qu'on a avec le peuple français, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Pologne. La souveraineté partagée, je reviens, c'est d'arriver à accorder 28 démocraties nationales, bientôt 27. Alors, il y en a qui sont un peu plus égales que d'autres. Et la démocratie française en
ça,
fait
ça
partie.
C'est
un grand pays fondateur. Mais il faut faire des compromis. Faire des compromis sur l'air de « retenez-moi ou je fais un malheur ». Il y en a qui ont essayé, encore une fois, ils ont eu des problèmes.
Bertrand Badi.
Oui, moi, je crois qu'il y a deux problèmes distincts. Hein. Il y a, effectivement, vous avez raison de remettre la question de la souveraineté sur le tapis. Et là, il y a un défaut de réflexion grave. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où la souveraineté ne veut plus dire grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est un monde interdépendant. Bah, moi, j'en ai parlé à M. de la Palice, il m'a dit interdépendant, c'est le contraire de souverain, n'est-ce pas? On est dans un monde plural. Et cette pluralité, elle a besoin d'une gouvernance. Et troisièmement, on est dans un monde de mobilité. Et plus ça ira, plus ce monde sera mobile, c'est-à-dire il y aura de plus en plus de migration, et il va falloir effectivement s'adapter à tout ça. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour s'adapter à ce nouveau monde, il ne faut pas avoir peur de changer nos concepts et non pas de les bricoler. Ça veut dire qu'effectivement, le logiciel souverainiste est un logiciel qui, si on le maintient, nous ramènera toujours à ce monde du 19e siècle, à ce monde westphalien, etc. Donc, il y a là une première question, et ça c'est un grand défaut du débat politique, c'est que personne n'essaye de regarder ce qu'il peut y avoir au-delà de la souveraineté, moi que j'appelle pas souveraineté partagée parce que je pense que ce bricolage nous égare, que j'appelle gouvernance. Gouvernance régionale, gouvernance mondiale. C'est autre chose, la gouvernance. La gouvernance, c'est pas une addition de souveraineté, c'est la prise de conscience de biens communs et la nécessité, dans l'intérêt de tous, de gérer ces biens communs, qu'ils soient régionaux ou qu'ils soient mondiaux. Je n'entends jamais un candidat parler de cela. Là-dessus, il y a une deuxième question qui est pratique, qui est effectivement très importante. Vous dites, il faut un accord à 27. Oui. Mais quand un accord à 27, ça n'existe pas. C'est-à-dire, un accord à 27, c'est ce que l'on appelle dans le jargon l'incrémentalisme, c'est-à-dire une espèce d'ajustement qui essentiellement repose sur l'immobilisme. C'est-à-dire, le seul point sur lequel 27 personnes
peuvent se retrouver, c'est de ne rien faire.
Nicolas Demorand, mettre d'accord 27 personnes, il y a une seule solution, c'est-à-dire on ne change rien. Ouais. Et dès qu'on change quelque chose, effectivement, cela fait lever des pouvoirs de veto. Bon. ce système-là ne fonctionne pas, c'est évident. Donc, la question qui se pose, c'est que se passe-t-il quand un peuple souverain dit « je veux que ça change ». Et là, même Mélenchon est silencieux dans cette affaire. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait le 8 mai, le lendemain de l'élection?
Yves Bertoncini nous a dit « on s'en va, si on peut pas changer, on s'en va ».
C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça, c'est pas moi.
Oui, mais enfin, vous nous avez pas montré l'autre voie.
Non, mais je vais vous la vous me laisser deux secondes.
Allez-y, regardez, parce que vous avez parlé, Jean-Baptiste.
Vous avez parlé des dogmes qu'il est impossible de changer. Alors, pareil, prenons l'exemple. Les fameux 3% de déficit public que les Français ont accepté, puisqu'on a voté à Maastricht pour s'engager à respecter la limite de 3% de déficit public. La dernière fois que la France a respecté cette limite, c'était en 2006-2007. Donc, sur 2002-2017, 15 ans, deux fois en dessous. Vous appelez ça un dogme? Si c'était un dogme, nous aurions été excommuniés depuis longtemps.
On peut avoir une relation élastique au dogme.
Ce qui fait hurler les Allemands, les Néerlandais et bien d'autres, c'est la flexibilisation extrême de ces règles qui sont évidemment flexibles. Ça a été changé. Quand la commission Juncker est arrivée, ça a été appliqué de manière beaucoup plus flexible. Le fait qu'on ait pu sauver la Grèce, l'Irlande, le Portugal, c'était totalement non prévu par les traités. C'était même exclu par les traités. Le fait qu'on puisse contrôler les banques, maintenant, leur serrer la vis au niveau européen et les forcer bientôt à payer pour leur propre turpitude. C'est quelque chose qui n'était pas fait, qui a été fait dans la campagne, dans la période récente. Le fait. Donc, sur ces sujets-là, le plan Juncker pour soutenir la croissance et l'investissement. Mais pourquoi? Et je termine là-dessus. Pourquoi ça a été possible? Parce qu'il y a eu des majorités politiques qui ont changé, y compris à la Commission européenne. Monsieur Juncker n'est pas monsieur Barroso. Tout ça reflète des choix démocratiques dans 28 pays. Et je veux dire que le déni de démocratie qu'il ne faut pas pratiquer, c'est le déni des 27 autres démocraties quand on veut construire l'Europe. Parce que sinon, effectivement, on s'en va, on construit la France à sa main, même si ça n'empêchera pas la France d'être interdépendante.
Françoise, je suis scandalisée de la campagne anti-Mélenchon faite par les invités. On ne peut pas traiter un candidat comme ça, ni faire une contre-campagne à son sujet. Thierry, l'un des intervenants critique Mélenchon. Ce n'est pas du scepticisme, donc de l'euroscepticisme, mais c'est simplement une autre vision des choses et de la société. Scander, il y en a marre. On présente le programme de Mélenchon comme fermé, mais c'est le candidat le plus ouvert. Et il souhaite une Europe sociale. Jean-Baptiste, vous êtes toujours en ligne. Vous êtes le porte-parole de cette colère qui s'exprime au standard.
Je voulais juste revenir là-dessus. C'est très intéressant ce que vous dites sur la démocratie et sur le fait de vouloir changer l'Europe aujourd'hui. J'aimerais juste noter quelque chose qui est quand même très intéressant. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2005, où le vote non a été le plus important pour les traités européens, la Constitution européenne. De quoi on se rend compte aujourd'hui? Qu'en fin de compte, si on totalise tous les candidats qui portaient le vote non en 2005, on obtient aujourd'hui plus de la majorité des voix. Vous ajoutez Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons évidemment totalement différentes. Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Hamon, qui je crois aussi soutenait le non à la Constitution européenne, et puis une partie des petits candidats, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est quasiment à 60% du peuple français qui va mettre un bulletin dans l'urne qui dit non à cette Europe-là. Alors, certains pour des raisons xénophobes, d'autres pour des raisons sociales, mais c'est quand même assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on revient, c'est un peu l'écho en fait de 2005 qui revient aujourd'hui, quoi.
Merci Jean-Baptiste. Restez avec nous.
Restez
avec nous. Donc l'addition que vient de faire Jean-Baptiste, Yves Bertoncini, vous la recevez comment?
Je pense que d'ailleurs il sous-estime le nombre, parce que j'ai bien compté, il y a au moins 9 voire 10 candidats qui ont voté non en 2005. Le seul qui avait voté oui, sauf qu'il n'était pas un acteur politique à l'époque, c'est, je crois, Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup plus en sondage.
Donc l'Europe est archi minoritaire dans l'opinion française.
Après, la question est de savoir si Marine Le Pen, par exemple, est si haute aujourd'hui en France à cause de l'Europe, ou à cause de son vote anti-système et à cause de la façon dont la France est gouvernée depuis 15 ans. Je pose la question, voilà. En la posant, j'y réponds en partie. Il se trouve que partout en Europe, il y a des partis qui sont plus ou moins eurosceptiques, voire europhobes. Et encore une fois, ce n'est pas une insulte, europhobe. On veut quitter l'Europe, on la quitte. Simplement, parfois, ils le sont.
On veut la réformer, on fait quoi?
On se bat à 28. Et encore une fois, l'évocation de 2005 m'amène à rappeler une chose. C'est basique. Il y a eu deux non référendaires en 2005, qu'on rappelle souvent, mais il y a eu aussi deux oui référendaires en Espagne et au Portugal. On fait quoi? On s'assoit dessus? Ils n'ont pas voix au chapitre, le peuple espagnol et le peuple portugais. J'ajoute, pour faire bonne mesure, qu'il y avait eu une douzaine de oui parlementaires. Alors là, on va nous dire, non mais les parlements, c'est pas pareil, c'est pas le peuple, voilà. Bon. Et ben donc, oui, c'est un combat. C'est frustrant. Vous voulez que je vous dise? C'est frustrant d'être europhile. C'est beaucoup mieux d'être président de la République et de décider, comme le faisait Nicolas Sarkozy, en 3 minutes dans son salon, qu'il va y avoir une loi qui va être votée en 15 jours. Ça n'existe pas en Europe. Si on veut construire l'Europe, il faut faire des compromis et il faut se battre et pas abandonner la partie comme menace de le faire Jean-Luc Mélenchon.
Je vous sens accablé, Bertrand Badi.
Oui, parce que, vous voyez, je crois qu'on tourne en rond. Et je comprends d'un certain point de vue l'exaspération de nos auditeurs. On tourne en rond pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'Europe n'a pas de ressort démocratique, Et le fait...
Pas moi qui le dis, hein.
Mais oui, mais c'est incontestable. Donc ce qui devrait être en tête des programmes électoraux, et notamment pour l'élection présidentielle, c'est comment accorder l'Europe et la démocratie. Vous parlez de souveraineté tout à l'heure, mais si le souverain s'exprime à un niveau et que le décideur s'exprime à un autre niveau, il y a des risques de court-circuit qui sont incessants. Et de ce point de vue-là, le traité de Lisbonne a fait énormément de mal à la réputation démocratique qui est devenue une réputation non démocratique de l'Europe. Voilà un problème concret. Deuxième problème, j'aimerais bien qu'une fois, on raisonne en termes d'enjeux. L'enjeu dominant ces 2-3 dernières années, ça a été la question migratoire. Est-ce que on a entendu au Conseil européen, dans la Commission ou ailleurs, une vraie réflexion, un vrai projet pour intégrer le phénomène migratoire qui, encore une fois, est une donnée irréversible de notre mondialisation dans le jeu de la gouvernance européenne? Nos dirigeants restent silencieux, il n'y a aucune proposition qui est faite, on va à la catastrophe. Et je comprends très bien pourquoi, effectivement, cet euroscepticisme gagne des points, et j'en suis extrêmement malheureux, parce que il suffirait qu'il y ait des offres transnationales. Pourquoi n'y a-t-il pas de réflexion commune entre les partis allemands, les partis français, les partis italiens sur cette question migratoire? Pourquoi se réfugie-t-on derrière des réflexions automatiques, Frontex, renforcement du contrôle aux frontières, etc. Tout ça, mais l'Europe a dépensé 13 milliards d'euros, vous m'entendez, 13 milliards d'euros pour réprimer les flux migratoires qui ont envoyé 40 000 personnes au fond de la Méditerranée. Tout ça entre 2000 et 2014. Qu'on aurait pu faire avec ces 13 milliards d'euros pour tenter de commencer une gouvernance de la migration? Ça, l'Europe n'en parle jamais. Donc effectivement, tout le problème est là, c'est simple.
La parole à la minorité, Yves Bertoncini.
Oui, dire que l'Europe n'a pas parlé des flux migratoires et des réfugiés, c'est quand même légèrement excessif. Avec monsieur Orban, c'était pas des bavardages, c'était des clashs monstrueux sur le fait que monsieur Orban pense que les réfugiés sont des menaces, alors que madame Merkel, dans le même temps, pensait que c'était des victimes, qu'il fallait les accueillir. Il y a eu des clashs monstrueux
entre
Nicolas...
Qui a fait l'effort de le remettre dans le droit chemin? Ce monsieur.
Très bonne question de Bertrand Badi.
Il est élu d'un peuple qui l'instrumentalise.
Qui en Europe suffisamment de voix pour expliquer qu'il nous envoie dans le mur et qu'il est en train de marcher à toute vitesse en marche arrière?
Mais
qui le dit ça? Et qui dit ça à la dame qui dirige la Pologne et au monsieur qui dirige la Tchéquie et la Slovaquie et le Danemark qui pique les bijoux des migrants pour se payer sur la bête?
Ne mettez pas la Tchéquie dans le même sac que les autres, s'il vous plaît, ni même la Slovaquie. Mais simplement, ce que ça révèle...
La Slovaquie interdit l'entrée de son territoire aux musulmans, c'est quand même pas rien.
Ce que ça révèle, cette discussion, c'est qu'il y a... Voilà, des États membres, des États-nations qui, dans la dernière période, ne sont pas d'accord. Ce que révèle la dernière période, crise de la zone euro d'abord, crise des réfugiés de l'autre, ce n'est pas tant un divorce entre Bruxelles et les peuples, ça c'est cette fable qu'on nous raconte toujours, c'est un divorce entre les peuples de l'Europe. C'était déjà vrai. Vous ne m'avez pas dit quand même qu'au moment de la zone euro, on n'a jamais parlé de la zone euro. Parce que par exemple, de la Grèce, on en parle, mais depuis 3 ans, sans arrêt.
Oui, enfin, on lui dit quoi faire à la Grèce.
Oui, mais c'est juste que la majorité du peuple grec n'était pas sur la même ligne que la majorité du peuple allemand ou finlandais ou slovaque pour le coup. La majorité du peuple suédois dans la crise des réfugiés voulait être accueillante comme les Allemands, alors que les Hongrois et les Polonais ont sombré dans la plus pure xénophobie. Et donc, évidemment que c'est difficile du coup dans ce contexte-là, mais ça ne montre pas que l'Europe manque de ressorts démocratiques. Ça veut dire que dans les démocraties nationales, il y a des choix qui sont devenus antagonistes. Le problème de la période récente, ce n'est pas que Bruxelles n'écoute pas les peuples, c'est que les peuples ne s'entendent pas. Voilà. Et donc, pour revenir sur vos thématiques,
donc,
moi je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord avec vous, sur le fait que pour sortir de ces crises de copropriétaires qui n'en finissent pas, il faudrait que les peuples, guidés par leurs dirigeants, mais d'abord leurs dirigeants, regardent par la fenêtre, regardent le monde, regardent la mondialisation, regardent Vladimir Poutine, l'État islamique, le chaos, le dérèglement climatique, la finance folle, et peut-être que s'ils regardaient davantage le monde, et si nos candidats à la présidentielle regardaient davantage le monde, eh bien peut-être il y aurait un peu de sens dans cette union qui peut faire la force, en théorie, parfois elle n'y arrive pas, plutôt que d'être focalisé sur tout ce qui nous divise. Nous sommes unis dans la diversité en Europe. Mais si, à ce moment-là, si on applique ce précepte à la France, on pourrait gloser des milliers d'années sur ce qui différencie un Bordelais d'un Strasbourgeois. Il y a un problème de narratif, de vision du monde, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, les candidats à la présidentielle française ont une responsabilité assez lourde.
30 secondes, Bertrand Badie.
Justement, le malheur de l'Europe, c'est qu'on gère la division en reproduisant le statu quo. On n'est pas d'accord, donc on fait comme s'il n'y avait rien de nouveau. Et l'Europe est une machine à faire comme s'il n'y avait rien de nouveau. Et entre-temps, c'est-à-dire depuis 1957, le monde a profondément changé. Si on le regarde, on est obligé de s'adapter. Alors là, on n'est pas d'accord. Et du coup, on revient au refrain du statu quo comme compromis. Et ça, c'est une catastrophe.
Encore un débat passionnant, malheureusement invisible dans la campagne présidentielle. Je vous remercie Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste de relations internationales, et Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, d'avoir eu cette conversation franche et animée. Merci beaucoup aussi aux auditeurs de France Inter. Le journal à suivre.